Et merci d'écouter France Inter, il est 8h. Le journal Sarah Guibaudeau, bonjour.
Bonjour, c'est la pétition qui a réuni le plus grand nombre de signatures en France. 1,6 million de Français veulent rappeler au gouvernement l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique. Noël en gilet jaune, il y avait beaucoup moins de manifestants samedi, mais certains comptent bien se retrouver aussi pendant les fêtes. Samedi à Paris, encore une fois, l'ambiance n'était pas franchement bon enfant. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour des violences et des gestes antisémites. Les auteurs ne sont pas à l'abri d'être retrouvés, nous le verrons. Il y a eu des interpellations ces dernières semaines. Comment sortir de la crise des gilets jaunes? C'est l'un des sujets que vous aborderez dans le grand entretien Frédéric Mettezo avec votre invité, Mounir Majoubi.
Le secrétaire d'État chargé du numérique pour parler de ce mouvement des gilets jaunes, moins mobilisateur mais visiblement de plus en plus violent et sectaire. Nous évoquerons la lutte contre la diffusion des fausses nouvelles sur Internet et la taxation des GAFA dès janvier prochain. Vos questions à Mounir Majoubi au standard 01 45. 24 7000.
Des agents de la DGSI, le renseignement intérieur, ont dû s'expliquer devant les juges sur leur relation avec l'entreprise Lafarge en Syrie. Nous ne leur avons pas demandé de rester, disent-ils. Aux États-Unis, des parcs nationaux fermés, c'est l'une des conséquences visibles du shutdown. Administration fermée, faute d'un accord entre le président et le Parlement sur le budget. Enfin, Noël, avec le succès des jeux vidéo rétro, un Père Noël en location, pourquoi pas, et chic pour danser. Vous avez jusqu'à la fin du journal pour essayer de retrouver l'air, sinon Mathieu Culeron vous remettra la musique en tête.
France Inter.
Il faut traiter la fin du monde et la fin du mois, avait dit Emmanuel Macron. Le président et ses ministres vont souffler quelques jours alors que la colère des gilets jaunes est loin d'être apaisée, on va y revenir. Mais le réchauffement climatique préoccupe aussi les Français. Ils sont 1,6 million à avoir signé la pétition en ligne intitulée « L'affaire du siècle » en répondant à l'appel de 4 associations de youtubeurs et d'artistes.
Pour l'instant, nos présidents, ils parlent beaucoup.
Notre maison...
Make our planet great again.
Mais ils ne font pas grand-chose et nous, depuis toutes ces années, on leur met pas assez la pression.
On va demander à la justice d'ordonner à l'État de respecter ses propres lois.
Alors inscrivons nos noms, des millions de noms.
Eh bien voilà, c'est fait. Alors les associations veulent saisir la justice pour attaquer l'inaction de l'État, mais le succès de la pétition est déjà une victoire pour Marie Toussaint, la présidente de l'association Notre Affaire à Tous.
La mobilisation citoyenne est déjà extrêmement importante dans la bataille pour le climat, parce qu'elle montre que sans attendre la fin du procès qui devrait avoir lieu dans 2 ans, 2 ans et demi, eh bien il est attendu de l'État qu'il agisse. Je crois que si l'État n'entend pas cette aspiration citoyenne, on va avoir un problème. Et que ce qui s'exprime à travers cette démarche, c'est une croyance en le pouvoir de l'État, c'est une croyance au pouvoir de la justice, c'est une action profondément citoyenne. Et je crois que le mouvement qui s'élève à travers le monde, à travers ces actions en justice, aujourd'hui on compte plus de 1 millier d'actions en justice climatique à travers le monde en 10 ans seulement, eh bien il montre que si les États ne sont pas prêts à agir, les citoyens, les associations et parfois les collectivités sont quant à elles prêtes à l'action et que cette action-là va prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure que les États ne tiendront pas leurs engagements.
Marie Toussaint, la présidente de Notre Affaire à Tous, interrogée par Delphine Evenou. Ce soir, beaucoup de gilets jaunes observent une trêve pour les fêtes et se donnent rendez-vous en janvier. D'autres vont réveillonner ensemble. Certains ont commencé dès hier à Pisançon, dans la Drôme. L'important pour eux, ce sont les liens qui se sont tissés depuis quelques semaines, comme une deuxième famille, Diane Sprimont.
Ça dans un décor un peu particulier. Hélène et d'autres ont ramené des guirlandes et boules de Noël. Ils les ont mis sur leur tout premier cadeau de l'année.
2 sapins de Noël qui nous ont été offerts par le maire de Chatuzange-le-Goubet. Et nous avons monté de toutes pièces, avec l'aide de palettes et de ballots de paille, une mini-crèche un petit peu révolutionnaire.
Un peu révolutionnaire, oui, parce que Jésus, Marie et Joseph se sont fait voler la vedette. Ici, c'est Emmanuel Macron, Brigitte Macron et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui sont sur la paille. Et sur le parking, Rachid, lui, a ramené sa petite roulotte. Il est crêpier.
J'ai préparé ma pâte à crêpes, j'ai ramené... des confitures, du caramel beurre salé que je fais moi, et j'ai pensé que faire des crêpes par un vrai crêpier, c'était une chose importante pour moi et parcours aussi.
Un peu plus loin sur le parking, un cheval et un poney. C'est une manifestante qui les a spécialement ramenés pour le repas de Noël. Et cet esprit de Noël, un peu particulier, Monica ne le partagera qu'avec les gilets jaunes. Et c'est très bien comme ça.
Les autres années, il y a le Resto du Cœur et tout ça, mais c'est différent. Quand on arrive et qu'on connaît personne, il y a des gens qui viennent nous dire bonjour directement. Il n'y a pas cette gêne qu'on peut avoir par les Restos du Cœur.
Alors ce soir, certains rejoindront leur famille et d'autres comme Monica s'organisent pour réveillonner une nouvelle fois sur le rond-point.
Une ambiance de fête qui ne régnait pas vraiment à Paris encore samedi. Édouard Philippe rencontre ce matin les policiers à moto de la préfecture de police, dont trois ont été agressés près des Champs-Élysées. Sur plusieurs vidéos, on les voit pris à partie par des manifestants. L'un d'eux a même brièvement sorti son pistolet. Le parquet a ouvert une enquête pour violence volontaire. Le Premier ministre a dénoncé hier une violence inouïe et des gestes antisémites vus samedi à Paris, comme ces gilets jaunes à Montmartre qui font la quenelle, gestes inventé par Dieudonné entre le salut nazi inversé et le bras d'honneur. Idem dans le métro parisien le soir devant la fille d'un déporté d'Auschwitz qui leur demande en vain d'arrêter. Là aussi, une enquête est ouverte. Et des enquêtes, il y en a plusieurs dizaines déjà en cours pour retrouver les auteurs des violences ou des dégradations des week-ends précédents, avec quelques succès, Emmanuel Leclerc.
Sur le pillage du magasin sous l'Arc de Triomphe, les enquêteurs disposent de plus d'une centaine d'empreintes relevées, des heures de vidéo analysées qui ont déjà permis d'aller arrêter notamment un suspect dans le Doubs, un homme de 30 ans installé dans un corps de ferme avec ses fusils de chasse et dans sa bibliothèque un certain nombre de livres prisés par la mouvance néo-nazie. Un autre casseur catalogué comme proche de groupuscules d'extrême droite a lui été interpellé parce qu'il avait laissé certains messages sur un forum de discussion internet avec notamment un activiste de la mouvance ultra-gauche. Des vidéos les montrent ensuite en train de casser ensemble sur plusieurs avenues de la capitale. Par contre, plusieurs affaires parmi les plus graves restent encore non élucidées. C'est le cas à Paris pour le policier lynché avec mâchoire et nez cassé, ainsi que pour le gendarme mobile qui a reçu une bombe agricole bourrée de clous et de boulons qui ont transpercé ses protections. Enfin, à Narbonne, où les gendarmes cherchent toujours à coincer les auteurs de l'incendie criminel de la gendarmerie d'autoroute, où le personnel a juste eu le temps de s'échapper par derrière.
Et ajoutons que ce week-end à Niort, dans les Deux-Sèvres, la permanence du député socialiste de La République En Marche, Guillaume Chiche, a été vandalisé.
France Inter, 8h07, la suite du journal. Sarah Guibaudot, du nouveau dans l'enquête sur les activités troubles du cimentier Lafarge en Syrie.
Oui, l'entreprise a reconnu avoir versé plus de 12 millions d'euros à des groupes armés, dont le groupe État islamique, et des agents du renseignement intérieur ont dû s'expliquer devant les juges d'instruction. Pour sa défense, Lafarge et son ancien directeur de la sécurité affirment en effet avoir servi les autorités françaises en les renseignant sur ce qui se passait dans le nord de la Syrie, en pleine guerre civile. Du côté de la DGSI, on n'a pas la même version, même si on reconnaît avoir agi de manière opportuniste pour profiter de ces informations. L'Aurélie Carive.
Lors de son audition le mois dernier, cet ex-officier de contact de Lafarge détaille sa mission de l'époque au sein de la DGSI, à savoir aider les entreprises à se protéger et au passage recueillir de précieuses informations pour le contre-espionnage. On est entre 2012 et 2014, la France cherche à identifier, à localiser ceux qui parmi ses ressortissants sont partis faire le djihad. La Syrie est en train de sombrer dans le chaos, Lafarge est la dernière entreprise hexagonale sur place. C'était un travail de fourmi, raconte l'officier. Pour autant, il se défend d'avoir donné quelques consignes que ce soit aux responsables du cimentier. On a fonctionné de manière totalement opportuniste, en profitant de leur maintien sur place, mais personne ne leur a demandé de rester, dit-il. Après cette déposition et celle d'un second agent, la juge d'instruction a refusé les auditions supplémentaires réclamées par la défense. À ses yeux, même s'il était démontré que les services de renseignement étaient au courant, cela ne changerait rien à la responsabilité de Lafarge, poursuivi pour financement d'une entreprise terroriste et complicité de crimes contre l'humanité.
L'ordre de retirer les 2000 soldats américains de Syrie a été signé hier à Washington. Un retrait qui inquiète les autres membres de la coalition contre les djihadistes et les rebelles kurdes qui craignent une offensive de la Turquie. Nos troupes rentrent à la maison, a lancé Donald Trump sur Twitter. Le président affirme que son homologue turc Erdogan l'a assuré qu'il allait éradiquer ce qui reste de l'État islamique en Syrie. Donald Trump va aussi remplacer dès le 1er janvier le ministre de la Défense Jim Mattis Matisse qui a démissionné pour protester contre ce retrait.
Ce retrait américain de Syrie, nous en parlerons avec Pierre Aski dans Géopolitique après votre journal, Sarah Guibaudeau. Et pendant les fêtes aux États-Unis, le shutdown devrait se prolonger.
Oui, c'est la conséquence de l'échec des discussions budgétaires entre les parlementaires et Donald Trump qui veut financer son mur anti-migrants à la frontière mexicaine. Certaines administrations fédérales ont dû fermer à New York, Loïc Lerie.
À New York, la statue de la liberté est restée ouverte. C'est l'État qui paye. À Washington, les sites en plein air sont également accessibles, mais pas les toilettes publiques ou le centre pour visiteurs de la Maison Blanche. Voilà les premiers effets du shutdown. Démarré samedi, les touristes ont aussi eu la mauvaise surprise de trouver certains parcs nationaux fermés. Les fonctionnaires fédéraux, eux, sont pour l'instant épargnés. Tous les salaires seront versés jusqu'au 28 décembre. Le problème se posera ensuite en cas de shutdown de longue durée. Le Sénat ne se réunissant pas avant le 27 décembre avec de faibles chances d'accord, le bras de fer pourrait traîner jusqu'à début janvier et l'arrivée d'une majorité démocrate à la Chambre. Si le scénario est celui-ci, 800 000 personnes seraient affectées, la moitié serait tout bonnement réquisitionnée sans être payée dans l'immédiat, les autres devront rester à la maison sans certitude quant à leur salaire. New York, Loïc Lerie, France Inter.
En Indonésie, le bilan du tsunami s'est alourdi à 281 morts. L'une des images de la catastrophe, c'est une immense vague qui vient balayer des musiciens sur scène en plein concert. Elle s'est abattue samedi soir sur les côtes du détroit de la Sonde entre Java et Sumatra. Une Française en campagne pour la direction de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Elle s'appelle Catherine Gélin-Lanéel et elle pourrait donc devenir la première femme à ce poste. Elle a obtenu le soutien de l'Union européenne.
8h11 sur France Inter, place au réveillon, Sarah. Qu'est-ce qu'on met sous le sapin ?
Eh bien, par exemple, l'album photo qui fait son grand retour, c'est à lire sur franceinter.fr. Et puis des jeux vidéo, mais attention, vintage. Dans les magasins ont débarqué ces derniers mois des versions modernes de la première PlayStation, de la Super Nintendo ou de l'Atari. Et dessus, on joue à quoi ? Olivier Bénis a déniché quelques perles.
C'est bien beau d'avoir réussi à brancher la PlayStation classique à la télé du salon. Il faut encore trouver par quel jeu commencer. Et si vous l'avez raté en 1998, on vous recommande de lancer Metal Gear Solid, thriller d'espionnage qui accuse un peu son âge techniquement, mais qui n'a pas pris une ride en termes d'ambiance et de bonnes idées. Si le Père Noël a préféré la Neo Geo Mini, ruez-vous à deux sur la série Metal Slug, des jeux de tir cultes au design cartoonesque, fou rire garanti. Les amateurs de jeux de combat préféreront s'affronter, par exemple, sur le très beau Last Blade 2. Sur Mega Drive, outre Sonic 1, 2 et 3, toujours redoutablement rapides et efficaces, n'hésitez pas à accompagner aussi votre petite sœur ou votre cousin pour combattre le crime à main nue dans Streets of Rage, un jeu dont la musique à elle seule vous propulse dans les années 90. Enfin, avant que Nintendo n'arrête de les produire en 2019, il vous reste de nombreuses heures à passer sur les rééditions de ces deux premières consoles, la NES et la Super Nintendo. Les amateurs de longues aventures y trouveront de quoi arriver très en retard au déjeuner de Noël, avec Zelda A Link to the Past ou Final Fantasy VI, deux références incontournables. Autant de preuves que le jeu vidéo vieillit parfois comme un bon vin.
Et pour les amateurs, encore plus de conseils de jeux rétro sur franceinter.fr. Vous avez les cadeaux pour jouer le jeu jusqu'au bout. Un habitant des Yvelines a créé une société qui loue des Pères Noël. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, hein, mais comme il ne peut pas être partout au même moment, une dizaine de collègues payants sillonnent les routes de la région parisienne, Kathleen Comte.
Quand Nicolas ouvre sa grosse valise noire, on a tout de suite un avant-goût de Noël.
C'est des vraies bottes, presque rangers, hein, c'est des vraies bottes de Père Noël.
Ah oui, là c'est la ceinture, c'est ça ?
Ah, ça c'est une grosse ceinture avec une grosse boucle dorée. C'est un vrai costume.
Un vrai costume que Nicolas et ses Pères Noël s'apprêtent à enfiler. Pour le réveillon, entre 19h et minuit, ils vont sillonner les routes d'Île-de-France. Chacun fait entre 7 et 10 maisons, 15 minutes à chaque fois.
On demande à tous nos clients de mettre les cadeaux sur le palier de la porte, ou du moins une partie, de manière à ce qu'ils puissent faire son entrée avec les cadeaux et ce qui paraisse naturel vis-à-vis des enfants.
Après les cadeaux, les photos, et côté budget, comptez entre 170 et 200 euros, une somme importante que Nicolas justifie par la qualité de la prestation.
Le problème de l'oncle ou du papa qui va se déguiser, c'est qu'effectivement à 5, 6 ans, 7 ans, les enfants peuvent être un peu observateurs et peuvent se rendre compte effectivement que la personne qui se cache à l'intérieur du costume est tout à fait familière, on va dire. Du coup, le Père Noël qui vient, qui apporte les cadeaux le soir du 24, bah voilà, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau pour le réveillon, quoi.
Et ça marche. La société de Nicolas, créée il y a 11 ans, affiche complet.
Ça devient vraiment un vrai business sur Noël. Quand je dis business, c'est business dans le bon sens, hein. Le but n'est pas d'escroquer ou de proposer quelque quelque chose qui tienne pas la route.
Un business que Nicolas, ingénieur informatique, le reste de l'année compte bien poursuivre. Il aimerait prochainement s'étendre au-delà de l'Île-de-France.
Donc vous l'avez compris, tous ces Pères Noël sont déjà réservés pour ce soir. Il ne nous manque plus que la musique. Là, on va faire plutôt plaisir aux parents ou grands-parents avec un coffret qui revient sur la carrière du groupe américain Chic. Son leader, le guitariste Nile Rodgers, a travaillé avec les plus grands, de David Bowie à Madonna, en passant par les Daft Punk. Au départ, Chic, c'est aussi l'histoire d'une supercherie, Mathieu Culeron.
Lorsque le noyau dur, le guitariste Nile Rodgers et le bassiste Bernard Edwards montent leur premier groupe The Boys au début des années 70, c'est un gigantesque bide, il n'intéresse personne. La stratégie de Nile Rodgers sera finalement la bonne, se faire passer pour des Français. Nile Rodgers.
Oui, au tout début, c'était le concept. Et en plus, à l'époque, ma copine était belge. Donc, elle parlait français. C'est elle qui a traduit nos paroles en français.
Est-ce que c'est chic ou simplement...
Je me disais, génial, ma copine peut faire ça.
Composé des albums Chic, C'est Chic, Risqué, We Are Family et d'un album de remix, ce coffret résume la meilleure période de Chic. Une musique qui va révolutionner la dance music et qui s'inspire de l'Europe plus que de l'Amérique.
Quand on écoute Chic, notre musique n'est pas basée sur le gospel. Notre musique repose sur le modèle européen. On s'est dit, et si des Français noirs débarquaient en Amérique et faisaient de la musique? Et notre histoire a eu l'air de fonctionner.
The Chic Organization, 1977-1979, un coffret en vinyle, CD et numérique, cadeau ultime pour faire danser toute la famille.
Et la matinale chic de France Oula. Inter, c'est avec Frédéric Mettezo cette semaine.
Comme vous y allez, Sarah Guibaudot. Merci Sarah, à demain pour le journal de 8h, 8h16.